La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Tant des tsars jusqu'à Vladimir Poutine, en passant par l'Union soviétique, la Russie n'a cessé de réaffirmer la grandeur, la modernité et la puissance de son empire. Et pourtant, ses dirigeants n'ont cessé de lancer des politiques aboutissant à des résultats contraires. Une ironie du destin, selon notre invitée historienne Sabine Dulin. C'est le titre impertinent qu'elle a choisi pour son dernier livre, paru aux éditions Payot. Ironie du destin que celui de construire un immense état-nation pour aboutir à son éclatement avec la révolution de 17. Ironie du destin que celui du projet d'une société égalitaire transformée en un vaste état bureaucratique et répressif avec l'URSS. Ironie du destin encore que celui d'une union des républiques socialistes soviétiques qui, une fois effondrée en 1991, voit chaque nation reprendre fissa son indépendance. En cette date clé, notre professeur des universités qui enseigne l'histoire de l'Empire russe et soviétique à Sciences Po nous offre une masterclass radiophonique aux bons soins et aux bons sons de nos archives de l'INA et de RFI. C'est très beau. Ce sont les chœurs de l'Armée rouge pour vous accueillir, Sabine Dulin. Bonjour.
Bonjour Valérie.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Bonjour et спасибо de participer à ce nouvel épisode de La Marche du Monde. Alors, est-ce que ces chœurs de l'Armée rouge sont pour vous une expression de cet esprit national russe, cher à tous les dirigeants des empires russes et soviétiques que l'on croise dans votre livre, Sabine Dulin, du tsar Nicolas Ier jusqu'à Poutine?
Alors oui, c'est l'émotion russe que l'on retrouve beaucoup dans la musique, dans la littérature. C'est un pays qui a quand même produit des choses extraordinaires en matière artistique.
Et pour connaître si bien cette histoire russe, est-ce que l'historienne que vous êtes conjugue à la fois son goût pour l'archive avec le plaisir de la littérature? Parce qu'on a le sentiment, en vous lisant, qu'il faut lire justement ces auteurs russes pour comprendre les Russes et pour comprendre la façon dont ils ont vécu ces différentes périodes de l'histoire que nous allons évoquer ensemble.
C'est vrai que j'aime bien conseiller souvent à mes étudiants de lire des romans qui replongent dans une atmosphère de l'époque ou de voir des films. Et parfois, c'est plus instructif finalement que de se plonger dans des livres d'historiens, même si bien sûr les livres d'historiens, c'est très utile. Mais je pense que c'est vraiment très complémentaire. Donc j'aime bien proposer des beaux romans. Enfin, je veux dire, en plus, pour la Russie, on a quand même Dostoïevski, Tchekhov, Turgenev. Et puis pour la période soviétique, on a aussi de très grands noms, Grossman, Pasternak, Chalamov, bien sûr.
Alors nous allons dérouler une histoire en cette période et pour évoquer la première, l'époque des tsars, nous écoutons ensemble le point de vue de la première historienne entrée à l'Académie française. Elle s'appelle Hélène Carrère-Dancos et elle évoque la façon dont les Russes, eux, voient les tsars.
Alors déjà, je dirais que la conscience collective découvre ces tsars et découvre que, contrairement à ce qu'on lui a appris, il s'est passé quelque chose avant la révolution de 1917. La deuxième chose, ils savent que les tsars ont construit un grand empire. Mmh. Un empire qui, au fond, était territorialement à peu près le même que l'Union soviétique dans laquelle ils ont vécu ou qui est proche d'eux. Et puis tout ça a disparu en 1992 et achève de se décomposer. Ce qui fait que maintenant, la Russie des tsars est accrochée dans leur esprit, premièrement à la grandeur, à la grandeur du pays, un pays qui comptait en Europe. Elle est accrochée aussi à une marche vers le progrès. Et ils ont le sentiment que c'est un progrès qui a été interrompu et qu'on leur enlève aujourd'hui le droit de se considérer comme des Européens, alors que toute l'histoire des tsars a été une marche vers l'Europe. Vous voyez que ce sont des sentiments très contradictoires, mais cela explique que les Russes se passionnent pour l'histoire passée, que l'histoire du régime soviétique, ça leur est égal désormais, mais que ce qu'il y a eu avant, ils se posent tout le temps la question « qu'est-ce que c'est que d'être russe ?» Et la réponse, en regardant la Russie des tsars, eh bien, c'est d'appartenir à un grand pays.
La voix de Hélène Carrère-Danco, c'était en 2008 sur la chaîne française France Télévisions. Alors, vous analysez justement, Sabine Dulin, cette Russie des tsars, celle des Nicolas, celle des Alexandres, une Russie de l'orthodoxie, de l'autocratie et de l'esprit national, écrivez-vous. Est-ce que c'est ça, justement, la définition d'un grand pays pour les Russes ?
Alors là, je crois que en fait, depuis ce qu'a dit Hélène Carrère-Dancos en 2008, il y a un petit peu eu une évolution dans le sens où c'est vrai qu'après l'effondrement de l'URSS, finalement, la plupart des Russes étaient tournés vers le passé d'avant 1917. Maintenant, je pense qu'il y a des éléments de la période soviétique qui ressortent aussi. Donc le grand pays, c'est vrai. Mais c'est aussi le grand pays soviétique de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, qui est vraiment un moment très très important pour toutes les familles russes d'aujourd'hui.
Alors ce grand pays, c'est un pays aux 130 nationalités que les tsars à l'époque veulent moderniser, et ça passe par la russification. Qu'est-ce que ça veut dire, Sabine Dulin ?
Alors pendant tout un temps, on supportait très bien d'avoir énormément de nationalités, d'ethnies, de nomades, et ça posait pas véritablement de problème à la gouvernance des tsars. Simplement, c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, autour de ce recensement de 1897, on a envie de ressembler à ce qu'est la modernité européenne. Et donc, on a l'impression qu'il faut faire de l'État-nation, qu'il faut arriver à homogénéiser ce pays. Donc, on a effectivement des politiques de russification qui d'ailleurs commencent surtout parce qu'on veut punir ceux qui se révoltent contre les tsars, et c'est notamment les Polonais. Donc, la première russification, c'est plutôt une punition des Polonais, qui ont toujours été une composante très très remuante de l'Empire. Et après, la russification, elle ne va concerner en fait que la périphérie européenne de la Russie. Et qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire imposer la langue russe, éventuellement convertir à l'orthodoxie. Mais on ne le fera jamais, par exemple, pour les parties un peu coloniales de l'Empire russe, c'est-à-dire l'Asie centrale et le Caucase. Là, il n'y a pas véritablement de russification, sauf éventuellement vers la Géorgie et l'Arménie. On est dans une russification, mais c'est quand même jamais un État-nation comme la France, par exemple.
Alors, puisqu'on s'amuse à balayer avec vous les grandes dates que vous avez retenues, moi je vais m'amuser aussi, peut-être à en changer la première. J'avais envie de vous proposer comme première grande date de cette période des tsars, l'abolition du servage en 1861. Est-ce que ça aurait pu être la première date de votre premier chapitre ?
Ben, c'est vrai que c'est vraiment un moment crucial et oui, ça aurait pu. Mais alors ça mettait l'accent sur quelque chose qui n'était peut-être pas l'ironie du destin. Parce qu'en fait, 1861, l'abolition du servage, c'est justement la volonté d'entrer dans la modernité, le regard vers l'Europe. Alors que partir de 1853, c'est mettre l'accent, malgré tout, sur la défaite et sur la nécessité de réformer, mais qui n'aboutit pas forcément au bon résultat.
Donc si le but, c'est de moderniser cet empire et ses colonies, et donc d'en faire une nation, le résultat va être contraire, Sabine Dulin.
Complètement, c'est-à-dire qu'on va renforcer en fait, l'égalité au village, au lieu de créer de la propriété privée de paysans. Et puis, au bout du compte, cette russification va déclencher d'énormes révoltes et un gros mécontentement dans les périphéries qui vont non seulement faire des attentats contre les gouverneurs et les tsars, mais qui vont aussi être une composante essentielle de la première révolution de 1905, parce que là, il y a à la fois des revendications sociales et nationales, et on les retrouve de la Géorgie à la Pologne, dans les pays baltes. Et c'est vraiment les périphéries qui sont les plus remuantes et qui montrent l'échec en fait de cette politique de russification qui a plutôt créé des mécontents et qui n'a pas du tout en fait réussi l'homogénéisation prévue.
Vous venez de le rappeler, à partir de 1905, on entre dans cette ère des turbulences et des révolutions. Évidemment, la grande date, ça va être 1917.
L'Union soviétique est fondée en tant que premier État des ouvriers et des paysans pour contrer la famine qui décime le peuple. En 1917, Lénine et ses bolcheviks chassent le tsar. Leur grande révolution socialiste d'octobre doit marquer le début de la révolution mondiale et la fin du capitalisme qui n'en est qu'à ses balbutiements en Russie. Pendant 4 ans d'une guerre civile sanglante, les Rouges, les bolcheviks de Lénine, se battent contre les Blancs, les représentants de l'ordre ancien. Bilan, des millions de morts. La garde rouge victorieuse devient l'armée rouge, qui constitue la base du nouvel État. L'étoile rouge qui coiffe le Kremlin est désormais le symbole de ce nouvel empire. L'emblème de cet autre monde qui se qualifie lui-même de dictature des ouvriers et des paysans. Le nouveau parti communiste de l'Union soviétique, le PCUS, est le seul parti au pouvoir. Soviet signifie conseil. C'est ainsi que l'Union soviétique trouve ses racines dans les conseils élus démocratiquement lors des révolutions de 1905 et de 1917. Pour Lénine, le communisme, c'est le pouvoir des soviets, plus l'électrification de tout le pays. Mais c'est surtout l'expropriation et la collectivisation. Dans un État communiste, il ne doit y avoir qu'une forme de propriété, celle du peuple.
Extrait du documentaire de Kevin Perouni, Histoire de l'URSS de 1917 à 1991. 1917, écrivez-vous, Sabine Dulin, c'est plusieurs tables rases. Et c'est d'abord ce fameux 8 mars, mémorable, à Pétrograd, avec une grève inattendue. Ce sont des femmes, des ouvrières qui descendent dans la rue et qui sont rejointes par des soldats, puisque la guerre et la Première Guerre mondiale bat son plein. Est-ce que c'est vraiment ça, le début de la Révolution ?
Oui, je pense que c'est vraiment le déclenchement. Il y avait déjà, bien sûr, des mécontentements. On avait assassiné Raspoutine, le moine favori de la tsarine. Mais l'essentiel vient de la rue, vient du mécontentement d'abord des femmes, puis des ouvriers et des soldats, et d'un ras-le-bol de la guerre. Donc c'est vraiment ça qui déclenche toute cette série d'événements de l'année 17 qui est assez extraordinaire, hein, et qui débouche sur des expériences politiques incroyables. Alors on peut dire quand même que l'année 17 est l'une des rares années de l'histoire russe qui est une année démocratique. La grande affaire de l'année 17, c'est l'élection de l'Assemblée constituante. Et je rappelle que l'Assemblée constituante, qui est élue à la fin de l'année, en novembre, alors même que les bolcheviks ont déjà pris le pouvoir, que les communistes ont déjà pris le pouvoir, cette Assemblée constituante, elle est constituée de plus de 200 députés qui ont moins de 30 ans, sur 700 députés. C'est significatif de cette jeunesse radicale et d'une démocratie tout à fait nouvelle à l'époque. Il y a aussi des femmes à l'Assemblée, parce que c'est la première fois qu'on élit des femmes dans une Assemblée parlementaire.
Donc, un laboratoire démocratique qu'on retrouvera rarement dans toute cette histoire des empires russes. Vous avez déjà prononcé le mot de bolcheviks, hein, qui ont pris le pouvoir. Les bolcheviks veulent supprimer l'empire des tsars, abolir l'État, les frontières. Et finalement, cette expérience démocratique va tourner court, puisque ce sont bien ces soviets, hein, ces conseillers, ces conseils qui vont imposer la dictature par la violence.
Oui, alors c'est vrai que les bolcheviks vont justement abolir, dissoudre cette assemblée constituante parce qu'elle n'est pas majoritairement de leur côté. Et globalement, ils vont utiliser la violence de classe de tous ceux qui veulent se venger des anciennes classes dirigeantes, hein, donc les ouvriers qui se vengent de leur patron, les paysans qui vont brûler les châteaux des propriétaires fonciers, les soldats qui s'attaquent à leurs officiers. Il y avait une telle hiérarchie sociale, on était dans un régime très inégalitaire.
On a parlé d'esclavage tout à l'heure,
tout, hein,
quand on parlait de servage.
Tout à fait. Et donc, il y a un potentiel de vengeance sociale extrême qui va être très largement utilisé par Lénine et ses camarades du parti bolchevique pour gouverner.
Et vous qui êtes une amoureuse de la littérature russe, vous avez choisi de partager avec nous un texte de Gorki, extrait d'un article de l'écrivain publié le 17 janvier 1918. On l'écoute.
Maxime Gorki, éditorial du 17 janvier 1918. Tout ce qui renferme en soi cruauté et folie trouvera toujours accès à la sensibilité des ignares et des sauvages. Récemment, le marin Yelesniakov, traduisant dans la langue banale de l'homme de la rue les discours féroces de ses chefs, disait que pour le bien du peuple russe, on peut tuer même 1 million de personnes. Je ne considère pas cette déclaration comme de la vantardise, et bien que je ne reconnaisse pas de conditions qui puisse justifier les assassinats en masse, je pense que l'on serait capable de massacrer 1 million de citoyens libres dans notre pays. L'extermination massive de tous les opposants est un vieux procédé éprouvé de la politique intérieure des gouvernements russes. D'Ivan le Terrible à Nicolas II, tous nos chefs politiques ont usé librement et largement de ce procédé pratique et simple pour combattre la sédition. Pourquoi Vladimir Lénine renoncerait-il à un procédé aussi simpliste ?
Vous avez la réponse, Sabine Dulin.
Oui, alors je crois que, hélas, pour... dans la réalité, Lénine et surtout son successeur Staline ont fait bien pire que les tsars avant eux en termes de répression et de nombre de morts. Donc on ne tient pas tant compte que cela de l'individu et il y a une capacité à sacrifier des milliers d'individus qui est juste absolument incroyable. Et c'est vrai de la répression, c'est vrai aussi de la guerre.
Et c'est vrai de la libération de l'Europe et de la lutte contre les nazis. C'est la grande guerre patriotique pour libérer tous les Européens.
27 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est absolument considérable. C'est un sacrifice énorme. Il n'y a pas véritablement de prise en compte du coût humain des décisions.
Quand Gorki écrit, donc chronique en quelque sorte, cette révolution russe, qui le lit ?
Alors, Gorki est quelqu'un d'extraordinairement célèbre. Son journal de l'année 17 est évidemment un journal très important parmi notamment l'intelligentsia russe. Il est très entendu et d'ailleurs c'est un peu une épine dans le pied pour les bolcheviks que cette vision anti-Lénine de Gorki pendant l'année 17.
Est-ce que c'est cette période de 17, au fond, qui incarne le mieux votre concept pour ce nouveau livre, votre vision ironique du destin russe, Sabine Dulin ?
L'idée, c'est vraiment, effectivement, de montrer à quel point on part dans des grandes idées de changement social, de réformes profondes du pays, et en fait, on arrive toujours un peu au résultat contraire. Alors, évidemment, quand j'ai choisi ce titre, j'ai pensé d'abord à ce projet communiste qui débouche sur son contraire, d'une certaine manière, donc, puisque les bolcheviks étaient marxistes, voulaient une égalité sociale, la création du communisme, voulaient abolir les nations et créer une société socialiste avec des hommes et des femmes nouvelles qui seraient libérés de tout ce qui était considéré comme de l'arriération, la tradition nationale, etc. Et puis aussi abolir les frontières entre les États, abolir la bureaucratie qui était critiquée dans la littérature russe abondamment depuis Gogol et Tchekhov. Et tout cela aboutit à l'inverse, hein, puisqu'on sait que pendant la période soviétique, d'abord, on ne réalise pas du tout cette internationalisation voulue. Et au contraire, finalement, la période de Lénine va créer plutôt des nations, va renforcer finalement cette structure en nation de l'ancien empire en créant l'Union des républiques socialistes soviétiques. Puis le deuxième aspect, le plus connu sans doute, c'est d'avoir reconstruit des frontières très fermées. On connaît le rideau de fer. Et puis le dernier aspect, bien sûr, c'est le fait qu'on a créé des apparatchiki, une nomenclatura, c'est-à-dire une classe dirigeante finalement, qui a des privilèges, même si ces privilèges sont peut-être moins énormes que certains oligarques dans d'autres pays.
Le 21 janvier 1924, le fondateur de l'Union soviétique, Vladimir Ilyitch Ulyanov, dit Lénine, meurt à Gorki, non loin de Moscou. Le 26 janvier, se déroulent ses funérailles nationales.
Lénine est né à Simbirsk en 1870. Il a 54 ans quand il meurt dans ce sanatorium où il avait déjà été hospitalisé en 1923. Dès l'annonce de sa mort, la foule se presse pour lui rendre hommage.
Lénine est mort officiellement d'une sclérose du cerveau que l'on attribua à l'époque à une trop grande activité intellectuelle. Son corps sera ramené à Moscou et sera exposé pendant 4 jours à la maison des syndicats. Le Congrès des Soviets décréta le jour de ses obsèques, jour de deuil national.
Des soviétiques de tous les âges et de toutes les régions de l'Union défilent devant son cercueil ouvert. Le 26 janvier, jour de ses obsèques, il a été décidé de sortir son cercueil et de l'exposer sur la place Rouge. Des dizaines de milliers de soviétiques viennent spontanément saluer le grand homme. Beaucoup n'oublient pas et pensent encore sincèrement que la révolution déclenchée par Lénine apportera plus de changements positifs à la Russie que le gouvernement social-démocrate qui avait renversé le tsar en février 1917. En octobre 1917, c'est la prise du palais d'hiver de Saint-Pétersbourg qui marquait le début de la révolution d'octobre, le début de la légende de Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine.
Alors justement, la légende Lénine, parce qu'il y a beaucoup de légendes dans cette histoire russe, est-ce que ce grand personnage de l'histoire des Russes et de leur empire, c'est aussi le père en quelque sorte de l'URSS, de cette URSS qui va être cet empire autoritaire, bureaucratique, derrière une frontière épaisse, pour reprendre vos mots? Est-ce que c'est la paternité de Lénine?
C'est sans doute pas ce qu'il voulait faire, et je ne sais pas si on peut tout lui attribuer. Ce qui est sûr, c'est que Lénine, d'abord, quand il meurt, c'est véritablement un moment d'inquiétude dans le pays, parce que c'est le fondateur d'un nouveau régime, et on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a un superbe texte que j'aime bien, ce qu'on appelle les svotki, c'est-à-dire les rapports sur l'opinion publique de la police politique, qui fait remonter les inquiétudes des paysans, qui demandent qu'on donne des messes pour Lénine, pour l'âme de Lénine. Donc c'est là qu'on voit à quel point on est dans un monde où l'ancien et le nouveau se mélangent, et qui sont très inquiets, qui croient que ça va déclencher une guerre, et puis on va le mettre dans le mausolée pour justement que les paysans puissent prier sur son tombeau. Donc Lénine joue un rôle très particulier. En même temps, il a finalement pas vu l'Union soviétique, puisqu'il meurt au moment où se fonde l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est ça un petit peu le paradoxe. Et si on suit ce que dit Poutine en 2017 pour l'anniversaire des 100 ans de la révolution russe, eh bien, Poutine n'avait pas un avis très très favorable sur Lénine, puisqu'il considère qu'il a posé une bombe sous la maison Russie, avec justement cette idée de créer une union des républiques socialistes soviétiques qui, à terme, débouche sur la sécession des républiques en 1991. Poutine a un avis très partagé sur Lénine. D'un côté, il n'a pas sorti Lénine du mausolée, mais en même temps, ce Lénine, c'est quelqu'un d'un peu trop révolutionnaire, d'un peu trop radical, d'un peu trop favorable aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc là, sans aucun doute, Poutine se sent plus proche de quelqu'un comme Staline que de Lénine.
Et donc cette URSS autoritaire et bureaucratique, ça va plutôt être l'œuvre de son successeur, Staline. Et Staline d'ailleurs, qui s'impose comme un successeur naturel. Pour autant, vous écrivez que dès son 50e anniversaire, Staline, en 1929, s'organise déjà son culte de la personnalité, au moment où finalement l'État et le parti communiste s'unissent totalement. On est en 29.
Oui, alors, sans aucun doute, ce que Staline fait et voit mieux que les autres, c'est quelles sont les sources possibles du pouvoir au sein de cette nouvelle structuration un peu inédite, je veux dire, des soviets d'un côté. Certes, il y a le parti qui est déjà unique dans le sens où tous les autres ont été interdits, mais on a aussi les structures donc de l'État, et tout ça, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Et là, Staline, qui est loin d'être la médiocrité du parti qu'évoquait Trotsky, son rival, hein, mais en fait, quand on voit les archives, on voit à quel point Staline est un homme politique, c'est vraiment un animal politique, et donc c'est le premier qui sent à quel point il faut unir ensemble toutes les structures, les ministères, le conseil des commissaires du peuple, qui est en fait un conseil des ministres révolutionnaires. Il faut unir cela au parti communiste, et c'est ça qui va permettre d'avoir tout le pouvoir. Et donc il va organiser ça avec son collègue et ami Molotov.
Et en même temps, Staline va être immédiatement obsédé par cette notion d'ennemi de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur.
Oui, il relie les deux. Alors ça, dès effectivement le début de son pouvoir, vraiment, en 1928-1930, il est dans la volonté donc de révolutionner son pays avec le plan quinquennal et la collectivisation. Et il est toujours très inquiet des possibilités d'action de l'étranger pour déstabiliser cette nouvelle Union soviétique en train de se construire. Et donc, il va y avoir vraiment cette figure essentielle, la figure de l'ennemi intérieur qui est reliée à un ennemi extérieur. On a, par exemple, cette figure du trotskiste reliée au parti nazi. Donc ce qu'on appellera l'hitléro-trotskisme, ce qui est en soi quelque chose d'invraisemblable.
Et en même temps, vu d'Europe, comment expliquez-vous qu'à l'époque, finalement, ce stalinisme fait moins peur que précédemment ce léninisme révolutionnaire ?
Oui, alors c'est vrai que finalement, la période stalinienne a eu plus de partisans, notamment dans les milieux intellectuels, progressistes, en France, en Grande-Bretagne, parce que... quelque part, l'aspect révolutionnaire de la période 17-21, avec cette énorme guerre civile, cette lutte entre les rouges et les blancs, etc., c'est une sorte de violence absolument non canalisée, une violence qui vient autant d'en haut que d'en bas. Mais dans la période stalinienne, on est vraiment dans un projet de modernisation qui s'impose par le haut, qui est totalement contrôlé par l'État-parti construit par Staline. Et finalement... ce que voient les intellectuels occidentaux, c'est justement les résultats, c'est-à-dire une modernisation à marche forcée, un changement social important. Hein. Il ne faut pas oublier que Staline va finalement gouverner avec de nouvelles équipes qui sont des gens qui sont issus des classes les plus populaires. Hein. Avec aussi toutes ces politiques qu'on pourrait appeler de discrimination positive, hein, qui favorisent à la fois les nationalités non russes et les femmes. Alors ça avait commencé dans les années 20, hein, à l'époque avant le grand tournant stalinien, mais ça se poursuit ensuite. Donc il y a plein d'éléments qui, évidemment, aux yeux des Occidentaux, apparaissent comme des acquis, des progrès sociaux et culturels.
Alors Staline, grand bâtisseur, mais à quel prix, hein, pour les paysans, pour les campagnes, puisque dès le 30 janvier 1930, le bureau politique lance la liquidation des koulaks en tant que classe. Et puis bien sûr, ce sont les débuts du goulag, hein, qui est le nom de l'administration principale des camps, avec des millions de morts. Hein, ça commence déjà très sévèrement en Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine aujourd'hui qualifie ces 5 à 6 millions d'Ukrainiens morts de génocide, hein, Sabine Dulin. Donc toujours cette politique d'éradication des ennemis d'à l'intérieur ou encore leur mise en esclavage avec le travail forcé conjugué à une politique d'expansion du territoire et de développement industriel. Au fond, il y a une propagande absolument extraordinaire qui vante la constitution la plus démocratique du monde, Sabine Dulin, et c'est pas moi qui l'invente, c'est inscrit effectivement dans la constitution écrite par Staline.
Alors, pour reprendre ce que vous évoquiez sur l'Ukraine et le goulag au début des années 30, je pense qu'il y a vraiment un phénomène, effectivement, une terreur qui commence par la périphérie et qui va vers le centre. On va vraiment éradiquer, finalement, une paysannerie qui pouvait être un peu plus récalcitrante, dans un premier temps, en Ukraine et à l'autre bout du territoire, au Kazakhstan. Donc des millions de déportés, des millions de morts dans la famine d'Ukraine. Et puis, petit à petit, cette terreur, elle va envahir tout le pays et aboutir à la période de 36-38, la grande terreur avec des fusillades massives, des exécutions dans l'ensemble des régions de Russie et dans l'ensemble des républiques. Et les procès de Moscou, ce qui était le plus connu à l'époque, qui accuse beaucoup d'anciens compagnons de Lénine de tous les crimes. Mais la constitution la plus démocratique du monde, pour reprendre ce que vous évoquez, c'est effectivement en 1936, la nouvelle constitution, où on donne le droit de vote à tout le monde, alors que dans les années 20, on interdisait le droit de vote à toutes les anciennes classes dirigeantes. Sauf que on donne le droit de vote à tout le monde, mais au même moment, on a des millions de prisonniers au goulag.
Et je vous propose à ce sujet d'écouter le témoignage d'Arseni Roginski. Il est né au goulag, il était historien, il était cofondateur de l'association Mémorial à Moscou.
En octobre
1947,
le camarade Staline,
встала почти нерешаемая задача.
S'est trouvé face à un dilemme
insoluble.
Заканчивался срок.
Il y a énormément de gens qui avaient été arrêtés en 1937. Et ils avaient été condamnés à cette époque-là à 10 ans.
Эти десятилетники 37-го года.
Donc en 47, ils avaient tous perdu leur peine. Bien sûr, Staline ignorait combien sont restés en vie. Ce n'est pas ces détails-là qui le tracassaient.
Но это конец 47-го.
Mais c'est la fin de l'année 1947.
Вы понимаете, что это такое? Это первый, самый яркий,
Historiquement,
так сказать,
vous savez ce que c'était. C'était la première étape de ce qu'on appelle
условно, холодной войны,
la guerre froide.
О том, чтобы
Tant et si bien qu'il y a eu une directive de réarrêter tous ceux qui avaient été libérés dans le cadre de l'article 58 du Code pénal en tant qu'ennemi du peuple.
Ну, конечно, не всех.
Pas tous, bien entendu.
А тех, в обвинениях которых, в обвинительных заключениях которых.
Mais ceux à qui on avait incriminé
были формулировки какие-нибудь связанные с террором, изменой
de
родины,
терроризмом, de la haute trahison, d'espionnage, de sabotage.
А если этих формулировок не было, а была только даже 58-10,
mais même ceux qui n'avaient pas ces mentions, mais qui étaient considérés
о причастности к троцкистам,
comme partisans de Trotsky,
или к бухаринцам,
ou de Bukharine,
или к шляпниковцам,
ou de Shlapnikov,
и еще
кражи целой серии вот таких категорий. Devait être réarrêté donc.
И этих людей было предписано.
Donc, tous ces gens-là ont été arrêtés de nouveau, mais non pas pour être libérés, mais pour être envoyés dans la région de Krasnoyarsk en résidence surveillée à vie.
À vie. La voix en russe dans le texte d'Arseny Roginski, superbement interprété par Vadim Polyakov. Merci à lui. Sabine Dulin, vous appréciez d'écouter le russe. Alors, l'ironie d'un destin, lorsqu'on voit aujourd'hui les défenseurs des droits de l'homme de l'association Mémorial, qui eux-mêmes se retrouvent sous le coup de la répression de la Russie de Poutine.
Oui, je suis contente qu'on parle de Mémorial, effectivement. Qui est une association, une société qui a été créée au moment de la perestroïka de Gorbatchev, donc dans le but de renseigner, exhumer tous ces crimes de masse de la période stalinienne, avec un travail justement de mettre des noms sur des listes et des statistiques. Je me souviens très bien qu'en tant que étudiante en thèse, je vivais à Moscou au début des années 90 et on voyait sortir tous ces martyrologues, c'est-à-dire des énormes livres dans lesquels on avait tous ces fusillés de 37 avec une photo, une biographie. L'idée, c'était vraiment de rendre des noms, redonner aux hommes et aux femmes victimes de cette histoire leur identité qui avait été gommée par cette vision d'une répression où on parlait d'éléments contre-révolutionnaires et non pas d'individus, finalement.
Donc Mémorial a contribué à l'écriture de l'histoire du stalinisme, de l'histoire du goulag, et aujourd'hui, Mémorial est désigné comme un ennemi de l'intérieur.
Exactement, Mémorial est en train d'être interdit. Et donc, on est dans un retour à ce qu'on pourrait appeler la période où on avait des dissidents en URSS, à l'époque de Khrouchtchev-Brejnev, où on avait des dissidents qui luttaient pour les droits de l'homme en URSS et qui étaient pour cela soumis à la répression du régime. Et on se retrouve un peu dans cette situation, avec toutefois une différence qui n'est pas forcément rassurante, c'est qu'on voyait à quel point, à l'époque, le gouvernement de Brejnev était très inquiet du regard de l'opinion publique occidentale sur ce qu'il faisait avec ses dissidents. On se souvient combien c'était compliqué pour Brejnev de savoir quoi faire de Solzhenitsyn lorsque l'archipel du Goulag est sorti en 1974 en France. Et on voulait surtout pas le mettre en prison parce qu'on voyait bien combien ça allait poser de problèmes pour l'opinion publique occidentale. Et aujourd'hui, on a plutôt l'impression que le régime de Poutine se préoccupe bien moins de l'opinion extérieure que le faisait Brejnev.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI avec notre invitée historienne Sabine Dulin. Nous revenons sur les grandes dates qui font l'histoire contemporaine des Russes et de leur empire, dont l'apogée se situe entre 1945 et 1979. Évidemment, en 1945, Sabine Dulin, c'est la victoire de Staline sur Hitler. Pour autant, On a compris que ce n'était pas du tout la victoire de la liberté pour les Russes.
Non, même si on doit dire que pour beaucoup d'historiens, la période de la guerre est une période fondatrice d'un certain nombre d'espoirs pour les Russes. Il y a vraiment, pour les citoyens soviétiques qui se battent, l'impression d'une forme de liberté et de responsabilité pendant la guerre. Et de fait, après la guerre, jamais plus les citoyens soviétiques ne vont s'adresser au pouvoir comme ils le faisaient dans les années 30. Dans les années 30, on écrivait des suppliques au pouvoir, on se plaignait auprès du pouvoir. Alors qu'à partir des années 40, quand on écrit au pouvoir, on a des revendications, des droits à défendre. Donc il y a malgré tout eu un changement. Sauf que, bien sûr, le régime de Staline reste extraordinairement répressif après la guerre. Et donc, on a l'impression d'un retour en arrière, d'une certaine manière, par rapport aux marges d'autonomie qu'on a cru acquérir pendant la guerre.
Alors, Staline finit par mourir en 1953, mais est-ce que le système stalinien meurt avec lui ? C'est à suivre.
Léonid Brejnev avait bien le droit d'être au premier rang aux funérailles du maréchal Joukov, figure de proue de l'URSS militaire. Cette armée, il l'a voulu, il l'a appuyée de tout son poids. Sous Brejnev, les généraux soviétiques ont pesé de plus en plus lourd dans le monde, de l'Afghanistan à Cuba, de l'Angola à l'Éthiopie. Et c'est l'armée soviétique encore qui a mis à mort le printemps tchécoslovaque en 1968. Un printemps dont voici les derniers feux. 18 jours après le baiser de Brejnev à Dubček, les chars soviétiques entreront dans Prague. Ainsi sera mis fin à toute cette joie, à tous ces rêves d'un renouveau libéral en Europe de l'Est. La normalisation à l'extérieur va de pair avec la normalisation intérieure. Les dissidents soviétiques sont poursuivis, emprisonnés ou encore exilés, tel Solzhenitsyn arrivant à Zurich en 1974. Exil à l'étranger pour Solzhenitsyn, exil intérieur pour Sakharov, autre prix Nobel, prison, camp de concentration, asile psychiatrique pour des milliers d'autres coupables d'avoir voulu penser, parler, agir librement et réduits au silence quand ils ne sont pas chassés hors de l'Union soviétique.
Ce qui est intéressant là, c'est qu'on entend bien la puissance militaire de la Russie, formidablement incarnée par celui qu'on enterre, c'est le général Joukov, l'homme qui a vaincu Hitler, ancien soldat de l'armée impériale russe pendant la Première Guerre mondiale. Donc on voit bien toute cette continuité aussi à travers ce personnage. Et cette puissance militaire, elle est aussi une question clé, vous le montrez dans votre livre Sabine Dulin, pour comprendre cette longue histoire russe. Et malgré ces changements radicaux, puisqu'on passe de l'Empire des Tsars, par exemple, à l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, il y a quand même cette continuité toujours de cette armée russe, qui a un rôle absolument clé dans l'exercice du pouvoir.
Oui, bien sûr, la puissance militaire est très forte. Alors, dans la période post-stalinienne, c'est vrai que non seulement l'armée compte, mais même elle va devenir politiquement importante, parce que tant que Staline était vivant, et même sous Khrouchtchev, on ne peut pas dire que les militaires avaient du poids. D'ailleurs, Joukov, qui avait été celui qui a fait la victoire en lien très étroit avec Staline pendant toute la Seconde Guerre mondiale et qui était devenu maréchal dès 1943, eh bien, ce maréchal Joukov, Staline le met de côté à partir de 1946. Bon, Khrouchtchev le ressort un moment et puis le met de nouveau de côté. Donc, l'armée rouge n'a pas de poids politique. Alors que c'est vrai que dans l'URSS de Brejnev, on va avoir une montée en puissance du rôle du complexe militaro-industriel dans le bureau politique, qui est l'organe dirigeant du parti et donc de l'Union soviétique. Et là, à partir du printemps de Prague, et puis après, au moment de la guerre d'Afghanistan, on a vraiment un poids des militaires et du KGB, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les ministères de force, vont avoir un poids très important et jouent un rôle dans la décision d'intervenir très souvent. Donc c'est vrai que même politiquement, ça a une influence. Et puis après, sur le plan mondial, bien évidemment que dans beaucoup de pays du tiers-monde, eh bien, les exportations d'armes et les experts militaires sont très appréciés dans un certain nombre de pays qui se battent pour leur indépendance, puis ensuite contre l'impérialisme américain. sur tous les terrains africains, latino-américains et asiatiques. Mais au même moment, Brejnev est obligé d'importer du blé en Union soviétique parce que le pays n'est pas autosuffisant sur un plan alimentaire et on réintroduit des cartes de rationnement dans les magasins. Donc évidemment, c'est un contraste absolu entre cette puissance qui va aussi jusque dans les étoiles et puis cette réalité quotidienne faite de pénurie, d'impossibilité d'avoir des logements. Donc évidemment, il y a ce contraste fort et qui va ne jamais être véritablement résolu puisque les tentatives régulières de modernisation, de réforme, n'aboutissent pas dans le sens où, effectivement, ça manque de démocratie, ça manque de transparence, ça manque, en fait, de responsabilisation des différents acteurs de la société.
Et cela aussi, c'est un peu le signe du début de la fin, Sabine Dulin. 1985, nouvelle date, c'est la sixième date clé depuis le début de cette masterclass radiophonique. C'est l'arrivée d'un nouveau venu qui va réussir à se mettre l'Occident dans sa poche, à coups de perestroïka et de glasnost, c'est bien sûr Mikhaïl Gorbatchev.
Je réalisais ce que signifiait prendre les fonctions de secrétaire général à l'époque. La situation du pays était grave, très grave. J'étais sûr qu'on avait besoin de changement. Avec le chanteur Tsoï, j'étais pour les changements.
Проблемы будут нарастать. Перестройка Кадана, захват и теперь все общество – это сложный процесс.
Горбатьев lui-même se met en scène et va dans la rue en VRP de la perestroïka. Il dit aux gens qu'il ne veut pas que la perestroïka divise la société, que la démocratie est la référence, qu'il ne faut pas plus de contrôle de la société, mais du parti.
Будем мы, знаете, этот контрольный аппарат раздувать. Все-таки вот и, конечно, партийный контроль запретить.
Dès 1985, Gorbatchev va incarner le changement, il va devenir la coqueluche de l'Occident. Mais Gorbatchev est-il si différent des autres dirigeants du parti, Sabine Dulin, puisque finalement, n'a-t-il pas sous-estimé la puissance des nations dans lesquelles ont émergé, bien sûr, des hommes politiques de stature nationale, si j'ose dire.
Oui, alors Gorbatchev est quand même différent de ses prédécesseurs, parce qu'il est plus jeune, il est plus entreprenant, il est peut-être plus intellectuel aussi que ceux qui viennent de passer avant au Kremlin. Mais c'est vrai qu'il a, en revanche, une incapacité à voir quelque chose de particulier, que voyait plus Brejnev d'ailleurs, qui est la diversité du pays et le fait que ce qu'on appelait l'amitié entre les peuples, donc le fait qu'on avait l'impression que la question nationale était résolue dans le cadre de l'Union soviétique, était une amitié entre les peuples qui nécessitait malgré tout le maintien d'une autonomie, d'une forme de souveraineté pour chacune des entités de la grande Union soviétique. Évidemment, comme il veut réformer, il veut supprimer toutes les clientèles locales. Donc on sait à quel point il va s'attaquer à ce qu'on va appeler à Moscou la mafia ouzbek, c'est-à-dire tous ces leaders ouzbeks qui vivaient sur la richesse du coton, hein, qui était l'or blanc de la République, et qui pratiquaient très largement les pots de vin, le népotisme, la falsification des chiffres, tout ça pour évidemment l'enrichissement personnel, mais aussi une certaine puissance de cette république. Et Gorbatchev va évidemment se heurter de front, en fait, aux identités nationales qui sont très présentes. Mais il faut bien dire que ce n'est pas l'Ouzbékistan qui va lui poser problème. Les premières républiques qui vont vouloir prendre leur indépendance, c'est d'abord les républiques baltes, c'est-à-dire les dernières qui ont été annexées par l'Union soviétique en 1940. Et ensuite, cette annexion a été réitéré à la sortie de la guerre. Donc ces pays baltes qui n'ont jamais accepté en fait d'entrer dans l'Union soviétique et qui vont être les premiers à réclamer leur indépendance.
Et là on sort vraiment du socialisme scientifique parce que le sens de l'histoire change de direction. C'est la fin.
Le journal Simon Tivol.
De profundis, l'URSS n'existe plus. C'est vrai qu'on l'a dit souvent depuis le mois d'août et que souvent les nouvelles qui nous viennent de là-bas sont difficiles à apprécier. Pourtant, celle-ci a de quoi rester en travers du gosier de Mikhail Gorbatchev. Je cite « Nous, République de Biélorussie, c'est l'ancienne Biélorussie, Fédération de Russie et d'Ukraine, nous constatons que l'URSS, en tant que sujet du droit international et réalité géopolitique, n'existe plus. »
La fin de l'URSS, moi, je pense que ça a été une tragédie pour notre pays. Moi, j'ai vécu longtemps en URSS. C'était un État fort, grand. Et le fait qu'on l'ait perdu, c'était une faute. Mais je pense qu'on pourra le restaurer. Il nous faut encore 10 ans environ. Si personne ne nous empêche, on va retrouver tout ça.
La fin de l'URSS, le 9 décembre 1991... Est-ce qu'aujourd'hui, la réussite de Poutine, c'est de reconstituer, d'avoir restauré justement cet empire dont ce russe que l'on vient d'entendre est si nostalgique ?
Ce type de nostalgie des Russes, on le lit aussi dans l'ouvrage « La fin de l'homme rouge » de Svetlana Alexievitch, où on voit un certain nombre de partisans du grand pays soviétique et qui se sentent orphelins après l'effondrement de l'URSS, orphelins de ce grand rêve, de cette grande utopie et aussi de cette grande puissance qu'était l'Union soviétique. Incontestablement, il y a un phénomène boomerang, puisque ça fait 30 ans. Donc, la happy end des années 90 apparaît beaucoup plus complexe, parce qu'il y a eu aussi de l'humiliation. Il y a des nouvelles formes de violence qui peuvent entraîner, à l'échelle du monde, le regret de la période de la guerre froide où tout était si stable, si contrôlé, si cadré par les deux grandes puissances. Et donc, incontestablement, à tous les niveaux, à l'échelle aussi bien internationale qu'à l'échelle de la Russie, il y a un certain nombre de nostalgies ou d'impressions qu'on a été trop loin dans, finalement, la victoire d'un camp sur l'autre. Poutine, là-dedans, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il est hanté par le déclin de la puissance russe et soviétique. Et il cherche, malgré tout, à trouver des biais pour assurer à son pays une forme d'existence forte à l'échelle régionale, voire un peu plus que régionale.
Une Russie entre voie nationale et impériale, ce sont les derniers mots de votre livre, L'ironie du destin, Sabine Dulin. Grand merci pour votre participation à cette émission réalisée par Sophie Janin avec Dauphine Moreau, notre stagiaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, tweetez, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.
Tout à l'heure,